Je nous salue dans le nom de Jésus. Amen. Voilà, donc c'est moi qui ai le privilège aujourd'hui, la responsabilité de partager avec vous la parole de Dieu. Et comme le pasteur Eman avait dit le dimanche dernier, nous allons nous entretenir sur des thèmes qui tournent autour de la vie en Christ. Et donc la vie en Christ, je l'ai vu un peu comme marcher avec Christ, comme suivre le Christ, comme grandir avec le Christ, ce genre de choses. Donc j'ai regardé dans la parole de Dieu et il m'est venu à l'idée de partager avec vous ce que Jésus lui-même a donné comme condition de base pour le suivre. Et nous trouvons cela dans Luc au chapitre 9, verset 23 à 24, que je vais vous lire. Puis il dit à tous, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la sauvera. Donc, le thème que nous allons partager aujourd'hui, c'est renoncer à soi-même. Jésus a dit renoncer à lui-même, mais nous allons prendre ça comme ça s'implique à nous, s'applique à nous, pardon, renoncer à soi-même. Donc, on va définir les termes et puis voir la raison fondamentale pour laquelle il faut renoncer à nous-mêmes. Après cela, on va voir quelques exemples qui vont nous permettre de comprendre, de cerner le thème, et puis nous allons dégager les conditions pour renoncer à nous-mêmes et le résultat du renoncement à soi. Donc, s'il faut définir les thèmes, renoncer à soi-même, il y a deux thèmes importants dans le thème que nous partageons aujourd'hui, le grand thème, il y a deux mots importants. Le premier, c'est renoncer. Et ça, on peut le définir comme se désister de quelque chose, rejeter, quitter, abandonner la possession de quelque chose, le désir de quelque chose, l'attachement à quelqu'un ou à quelque chose. C'est renier, ne plus vouloir reconnaître quelqu'un pour ce qu'il est ou pour ce que l'on croyait. Bref, c'est, vous voyez, moi, j'aime bien rejeter, abandonner, renier, désavouer. J'aime bien ces thèmes-là. Et le deuxième qui vient, c'est soi-même. Soi-même, c'est, j'allais dire, c'est un gros morceau. Je peux le définir comme c'est toi dans ton essence, dans ta particularité, dans tout ce qui te caractérise. C'est, je dis dans tout ce qui te caractérise parce que, on le verra, c'est pas toi en tant que corps. L'homme est composé, on sait, de corps, âme et esprit. Mais on sait que même si on regarde deux jumeaux qui se ressemblent trait pour trait, que les hommes ne peuvent pas distinguer à vue d'œil, on sait que ces deux jumeaux n'auront pas le même comportement. Parce qu'il y a quelque chose qui est dedans, qui est différent. Donc, ils n'auront pas les mêmes façons d'agir. Donc, comme j'ai dit, l'homme, c'est corps, âme et esprit. Le corps, c'est ce que nous voyons, mais ce n'est pas vraiment ça qui nous détermine. Le corps, c'est juste une enveloppe. C'est comme le tableau qui est là. On voit Carrefour de Saint-Henri, mais le tableau lui-même n'est rien. L'affichage n'est rien. Donc, si on enlève l'affichage, le Carrefour de Saint-Henri va s'afficher sur le mur. Ça va apparaître sur le mur. Et même si on éteint le vidéoprojecteur, ça n'enlève rien à ce qui est écrit parce que c'est dans l'ordinateur. Donc, la source, en fait, vient de l'ordinateur. C'est de là que ça vient. Ouais. Et donc, le corps, il y a le corps. Et il y a l'âme. L'âme, c'est vraiment complexe. C'est le siège de notre volonté, nos désirs, notre intelligence, notre caractère, nos émotions, nos croyances, nos faiblesses, nos joies, nos peines. Tout ça, ça reste. Ça fait partie de l'âme. Et c'est l'âme qui donne la personnalité au corps. C'est l'âme qui fait mouvoir le corps, qui fait bouger le corps. en fonction de ce qu'elle a, elle fait, elle mène le corps ici ou elle mène le corps là. C'est pour ça que Jésus dit que rien de ce qui entre dans l'homme ne le souille, c'est ce qui sort de l'homme qui le souille. Donc, c'est ce qui vient de l'intérieur qui fait quelque chose. Et l'esprit, on peut le définir comme la partie qui nous permet de rentrer en contact avec Dieu. C'est là que Dieu se révèle à nous. Mais on ne va pas trop rentrer dans ça parce que c'est complexe. On ne va pas faire de la métaphysique et puis c'est trop compliqué. Dieu lui-même a dit dans Hébreux 4, verset 12, que la parole de Dieu est plus tranchante qu'une épée à double tranchant, capable de partager âme et esprit, moelle et jointure. Donc, c'est pour dire que la limite, en fait, entre l'âme et l'esprit n'est pas nette. N'est pas nette. Mais ce qu'il faut que vous reteniez, c'est que le corps que nous transportons partout, ce n'est pas lui qui nous définit. C'est ce qui est à l'intérieur. C'est ce qui provient de l'âme. Donc, ça, c'est s'il y a une chose à retenir, c'est ça qu'il faut. Il faut retenir. Et soi-même est aussi défini par autre chose, par cette nature que nous avons reçue depuis la chute d'Adam, cette nature adamique. On fait pas attention le plus souvent à ça, ou ce n'est pas des choses qu'on évoque, surtout peut-être dans les pays développés, dans les pays occidentaux, mais l'homme est défini par ça. C'est la nature adamique, c'est elle, c'est le siège de la chair, c'est elle qui nous pousse à faire le péché, c'est elle qui nous qui nous tourne, j'allais dire, vers le mal. On est enclin à faire le mal. Et c'est pour ça que Jésus a opposé l'esprit à la chair. Il a dit que la chair a des désirs opposés à ceux de l'esprit et l'esprit en a d'opposés à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez pas ce que vous voulez. Donc, la nature adamique, c'est quelque chose qu'il faut prendre en considération. Et cette nature-là, tu n'y peux rien contre. Tu nais avec et elle, j'allais dire, elle te définit jusqu'à ce que tu fasses quelque chose. C'est pour ça aussi que Jésus dit, je crois que c'est dans Romains 13, verset 8, ça me vient juste à l'esprit, Romains 13, verset 8, que si, ou 8, verset 13, je vais voir, non, c'est 8, verset 13, ouais. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit, vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Ouais, c'est comme s'il y a, il y a cette dualité-là. Il y a la chair qui est là, qui fait son travail, et puis il y a l'esprit aussi qui est là, qui fait son travail. Mais si on vit selon la chair, on mourra. Mais si par l'esprit, on renonce aux œuvres de la chair, nous vivrons. Et vous savez que dans Galates 5, 19, Jésus a parlé des œuvres de la chair. Et dans Galates 5, 22, il a parlé du fruit de l'esprit. Donc, qu'est-ce que soi-même? C'est la conjugaison de tout ça là, de ce qui est dans ton âme, de la nature adamique, de où tu as grandi, de comment tu as été éduqué, des expériences par lesquelles tu es passé, des croyances que tu as eues. Et tout ça te donne un résultat. Ça fait de toi quelqu'un qui est particulier. Ça fait de toi quelqu'un qui est différent d'un autre. Chacun est complètement différent. On a beaucoup de choses qui nous caractérisent et que nous affichons au monde. Si on regarde dans la Bible, on a vu par exemple le jeune homme riche, OK? Lui, on sait qu'il est riche, donc c'est quelqu'un peut-être qui est vraiment enclin à, qui a un grand amour pour les richesses. On a vu Zachée que nous avons chanté tout à l'heure. On dit c'était un riche, le chef des publicains. Dans la Bible même, les hommes l'ont qualifié comme un homme de mauvaise vie. Ouais. Donc, c'est-à-dire que les hommes, lui, ont déjà collé une étiquette en fonction de ce qu'il a eu à faire. Mais ce qu'il a eu à faire, ça vient de quoi? Ça vient de ce qui est en lui. Ça vient des enseignements qu'il a reçus, des croyances, et ça vient de sa nature adamique aussi qui l'a poussé à faire telle ou telle chose. On a vu aussi Naaman, le chef de l'armée, je crois, qui avait la lèpre, et puis à qui le prophète a demandé d'aller juste se baigner. Et puis qui n'a pas voulu, c'est dit, comment lui, un homme aussi grand, il peut aller juste se baigner pour une guérison. Donc lui, ouais, il était peut-être caractérisé par sa grandeur, il y avait un certain orgueil en lui. Il y a beaucoup d'hommes dans la Bible. On a vu la femme prostituée. Les hommes la caractérisent comme la femme prostituée. C'est ça qu'on retient d'elle. Ce que je veux que nous comprenions, il y a beaucoup de choses, c'est vrai, qui nous caractérisent, mais il y a certaines qui sont plus manifestes que d'autres. Et les hommes, ce qui est manifeste que d'autres, c'est ce qu'ils voient. Mais le Seigneur Jésus, en fait, lui, il voit tout. Et il y a des aspects de nous-mêmes que nous ne connaissons pas encore. Parce que simplement, ils n'ont pas eu l'occasion de se révéler. Donc, je pense par exemple que moi, je ne suis pas un détourneur de fonds. Mais peut-être que c'est parce que je n'ai jamais été mis, je n'ai jamais été mis en face de fonds réels que je dis que je ne détourne pas les fonds. Peut-être que si on me met dans une situation où j'ai en face de moi les fonds du Canada à gérer, peut-être que je vais, je ne sais pas. Mais comme je n'ai pas encore eu ça, donc j'ai dit non, 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 moi je ne suis pas un détourneur, ça c'est des choses que je ne fais pas. Donc chacun, il y a des aspects de toi-même que tu ne connais pas encore. Mais lorsque tu vas rencontrer des circonstances dans la vie qui vont toucher à ces aspects, tu vas voir si tu es affranchi de ces choses ou si tu es encore dans ces choses. Donc, renoncer à soi-même, on pourra le définir comme renier son essence, rejeter sa propre personne, rejeter sa propre nature. Voilà, on peut peut-être prendre ça pour essayer d'aller de l'avant. Et je veux ajouter aussi que le renoncement à soi, c'est un processus continu. Parce que, j'ai dit tout à l'heure, il y a des aspects de nous-mêmes que nous ne connaissons pas. En bien ou en mal, hein, il y a des qualités qu'on ne connaît pas. Peut-être qu'on n'a pas encore été mis devant le fait. On ne sait pas si, par exemple, peut-être on est un grand inventeur. On ne sait pas si on est un leader de personne. Tant que tu n'as pas encore été mis devant, c'est comme on appelle l'appel de Dieu. On dit l'appel de Dieu. Si tu n'as pas été exposé, tu ne vas pas savoir ton appel. Mais l'appel est quand même là. L'appel de Dieu ne naît pas. L'appel est là. Il y a des choses mauvaises aussi qui sont à nous, comme j'ai dit. On ne connaît pas, qui se révèlent peut-être jour après ou bien année après année. Et c'est le renoncement continu qui nous permet d'abandonner ces choses. OK? Maintenant, pourquoi renoncer à soi-même? La première raison et la fondamentale, c'est parce qu'il n'est pas possible de suivre deux maîtres. On ne peut pas faire un conflit d'intérêts. Il n'est pas possible de suivre deux maîtres. Ça, c'est la raison fondamentale. Et on la trouve dans Matthieu 6, 24, où Jésus dit, l'on ne peut suivre deux maîtres. Je peux vous lire ça peut-être pour que vous ayez les vrais mots. Matthieu 6, verset 24. Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Donc, c'est ça que Jésus est en train de dire. Il dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. Donc, lui est un maître. Il est en train de dire que pour le suivre, il faut renoncer à l'autre maître. C'est vrai que je l'ai déjà défini au début, mais on va en parler parce que souvent les gens se disent, mais nous sommes faits à l'image de Dieu, donc nous sommes tous enfants de Dieu, et ça, c'est quelque chose, c'est quelque chose que même on entend dans le monde des chrétiens. Nous sommes tous enfants de Dieu. Dieu nous a créés à son image. Donc, il n'y a pas de problème. Mais s'il n'y avait pas de problème, pourquoi Jésus va demander de renoncer à soi-même avant de le suivre? C'est Jésus qui t'a créé. S'il n'y a pas de problème sur toi, il ne va pas te demander de renoncer à toi-même. Il te dira, par exemple, si tu veux me suivre, écoute mes enseignements. Si tu veux me suivre, lis ma parole. Si tu veux me suivre, mais il ne va pas mettre il va pas faire un problème sur ta personne parce qu'il sait que ta personne, c'est lui-même qui l'a créé. Vous comprenez? Mais l'autre point, c'est parce que, comme je dis, notre nature est corrompue. Et ça, là, comme je dis, je veux insister dessus parce que dans le milieu chrétien, on entend des fausses choses. Ou bien c'est le manque d'enseignement, ou bien c'est la liberté et pas la. La légèreté, pardon, mais on pense que tout le monde est enfant de Dieu. Non, tout le monde n'est pas enfant de Dieu. Tout le monde qui habite là, les 8 milliards et quelques d'habitants que nous sommes sur la terre, ne sont pas tous des enfants de Dieu. On devient enfant de Dieu. Quand on est, la nature adamique est là. Et elle nous caractérise, même le bébé qui n'a pas, à qui on n'a rien enseigné encore. La nature adamique est déjà en lui. Et ça, c'est depuis la chute de Adam et Ève. L'homme a renoncé à son premier maître qui est Dieu, qui était dans le jardin d'Éden avec lui, qui lui donnait tout. Il a renoncé à lui pour se mettre sous la domination du diable. Donc, quand Dieu a chassé Adam et Ève d'Éden, il a fait passer l'homme dans une autre dimension spirituelle qui fait que nous avons tous cette nature adamique, qui que tu sois. Dès que la personne naît, elle a cette nature adamique-là. Et cette nature adamique est un problème pour Jésus. Pour lui, c'est un problème. Il ne veut pas, il nous dit que cette nature ne peut pas le suivre. Parce que c'est à cause de cette nature, rappelons-nous bien, qu'il a chassé l'homme du jardin d'Éden. Donc il dit, si tu veux me suivre, ça là, il faut que tu laisses tomber ça. Il faut que tu renonces à ça. Parce que tu ne peux pas me suivre avec ça. On ne peut même pas ajouter Jésus sur la nature adamique. Ce n'est pas possible. Parce que ça va faire quoi, comme on a dit en premier, un conflit d'intérêts. On ne peut pas suivre deux maîtres. Et il faut aussi ajouter que le renoncement à soi n'est pas l'abandon d'une chose donnée. Je fumais, je ne fume plus, j'ai renoncé à moi. Non, ça, ce n'est pas le renoncement à soi. Ça, c'est tu as renoncé à un acte, tu t'es séparé de quelque chose, mais ce n'est pas le renoncement à soi. Soi-même, comme j'ai dit, c'est complexe. Ouais, ce qu'on a dit, c'est toutes tes croyances, tes centres d'intérêt, tes rêves, tes ambitions, tes choses. Et tout ça, là, ça peut t'empêcher de suivre le Seigneur. Ça peut être un frein si tu n'étais pas, tu n'as pas laissé tomber, si tu n'as pas lâché prise. Même tes rêves, tes ambitions peuvent être un frein pour suivre le Seigneur. Tes ambitions, aussi nobles soient-elles, peuvent être un frein pour que tu suives le Seigneur. Et nous allons voir quelques exemples de renoncement. J'aimerais dire que dans ces exemples-là, les deux premiers vont parler d'abandon et de remplacement. Parce que je crois qu'on a compris, lorsque Jésus dit de renoncer à nous, c'est vrai, tu vas renoncer, donc tu vas laisser tomber quelque chose, mais il faut bien que tu mettes autre chose à la place. Parce que si tu enlèves A et que tu ne remplaces pas A, A va revenir. La nature a horreur du vide. Donc A va revenir. Donc quand tu enlèves, ok, Jésus ne l'a pas dit, mais dans la logique de la chose, quand tu renonces à toi-même, comme tu veux me suivre, tu me mets à la place pour que tu puisses me suivre. Donc, c'est ça. Donc, c'est que les exemples que nous allons voir, c'est abandon ou bien délaissement et puis remplacement. Et puis les autres, on va voir un engagement déterminé. Et ok, nous allons voir ces choses lorsque nous allons lire les passages. Matthieu 13, 44 à 46. Il y a deux exemples là-bas. Deux exemples qui parlent à peu près de la même chose. Je vais lire les deux, mais on va parler de un en particulier. Le royaume, Matthieu 13, 44 à 46. Le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a et achète ce champ. Le royaume des cieux est encore semblable à un marchand de perles, à un marchand qui cherche de belles perles. Il a trouvé une perle de grand prix et il est allé vendre tout ce qu'il avait et l'a acheté. Vous voyez, ces deux exemples, ça montre à peu près la même chose, un trésor. Mais on va plus parler du marchand de perles. C'est un marchand de perles. Je suppose que si c'est un marchand de perles, ça veut dire qu'il connaît les perles. Il a la connaissance des perles. Il sait les perles de petite valeur, les perles de grande valeur. Ça veut dire qu'il doit lui aussi avoir des perles, puisque c'est un marchand de perles. Mais la Bible dit qu'il a trouvé une perle de grand prix. Et qu'est-ce qu'il a fait? C'est ça qui est important. Il est allé, il a fait quoi? Il a vendu tout ce qu'il a. Pour faire quoi? Acquérir cette perle qu'il a trouvée. On voit là l'abandon. On voit là le délaissement. Je n'ai jamais vu dans le monde quelqu'un qui a vendu tout ce qu'il a pour acheter quelque chose. Je ne sais pas si on connaît. Est-ce qu'on a vu dans les films? Est-ce que vous connaissez, même dans la culture du monde, est-ce que quelqu'un connaît? Quelqu'un qui a vendu tout ce qu'il a pour faire quelque chose. En tout cas, moi, je n'en connais pas. Juste, tu connais? Je ne connais pas. Je ne connais pas quelqu'un qui a vendu tout ce qu'il a pour acquérir une seule chose. Quand un homme pose ce acte, il faut comprendre qu'il l'a laissé tomber lui-même à cause de la chose qu'il est allé acquérir, ou bien au profit de la chose qu'il est allé acquérir. Et ça, c'est un exemple très fort il a vendu tout ce qu'il a. On peut se dire, mais c'est parce qu'il connaît. Non, mais quand on regarde, puisqu'il y a ce qui est dans la Bible, il y a le contre-exemple, le jeune homme riche, qu'est-ce qui s'est passé? Le jeune homme riche, on ne lira pas l'histoire, mais je crois que c'est dans Matthieu 19, 16 à 26. Le jeune homme riche, on connaît son histoire, il est venu dire à Jésus, grand maître, qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir la vie éternelle? Jésus lui a dit, mais pourquoi tu m'appelles maître? Mais Jésus dit, mais tu sais ce qui est bon, il va, tu aimeras le Seigneur ton Dieu, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et il dit à Jésus, mais j'ai fait tout ça, Seigneur. Si ce n'est que ça là, je l'ai fait. Et Jésus lui dit quoi? Bon, si tu as fait tout ça, va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, puis viens et suis-moi. Mais ce va et vend, lui n'a pas pu le faire. Voici deux personnes dans la Bible. Il y a un qui a trouvé une perle de grand prix. Il a vendu tout ce qu'il a pour acquérir cette perle. Il y a un autre qui a trouvé le Seigneur, puisque lui-même, il vient, il l'appelle maître. Alléluia. Il vient lui-même, il l'appelle maître. Ce n'est pas quelqu'un qui lui dit, il vient, il l'appelle maître. Et Jésus même lui dit, pourquoi tu m'appelles maître? Il n'y a que Dieu qui est bon. Et il lui pose la question. Et celui que tu appelles maître te dit, bon, va, vends tout ce que tu as, viens et suis-moi. Il n'a pas pu le faire. Il n'a pas pu. Ça veut dire que lui-là, il était caractérisé par l'amour de ses richesses et il n'a pas pu abandonner. La Bible dit, il s'en est allé triste parce qu'il avait de très grands biens. Ouais. Donc, ne croyons pas que c'est facile. Il y en a qui peuvent le faire, il y en a qui ne peuvent pas le faire. Ce n'est pas aussi évident. L'autre exemple, ça c'est pour montrer l'attachement, l'engagement sans faille, sans condition, quel que soit ce qui se passe. On peut prendre l'exemple de Jésus avec ses disciples dans Jean 6, versets 66 à 68. Ouais, Jésus a donné un enseignement bizarre. Il a dit aux gens, celui qui ne mange pas ma chair, qui ne boit pas mon sang, celui-là, il ne peut pas me suivre, que moi, ma chair est une nourriture, mon sang est un breuvage. Il commençait à dire des choses bizarres. Les gens ne comprenaient pas. Celui-là, est-ce un cannibale? Est-ce un vampire? Qu'est-ce qu'il est? Il est en train de nous enseigner. Nous, on n'a jamais vu, entendu ces choses. Et la Bible dit que plusieurs de ses disciples ont commencé à se retirer de lui. Plusieurs personnes ont commencé à partir. Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent et ils n'allaient plus avec lui. Jésus dit aux 12, et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller? Simon-Pierre lui répondit, Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Parce que on pense que c'est simple, mais peut-être qu'on n'était pas là, c'est pour ça que quand on lit aujourd'hui, on a du recul et puis on commande facilement. Jésus a prêché des choses bizarres que personne n'a jamais prêché. Il dit, il est en face des gens et puis il leur dit que, et puis Eman, le pasteur Eman me dit que parfait, si tu ne bois pas mon sang, je te dis que tu viens à Saint-Henri, c'est zéro. Ça sert à rien. Ça sert à rien. Non, parce qu'il faut qu'on se mette dans le contexte pour comprendre. Eman me dit, parfait, si tu ne bois pas mon sang, moi, ton pasteur, je te dis que ça ne sert à rien de venir. Il faut que tu manges ma chair et qu'il faut que tu boives mon sang pour que tu puisses aller au ciel. Et donc, les gens, ils ne comprenaient pas. Ils ont commencé à voir Jésus comme un mystique, comme quelqu'un qui fait de la sorcellerie, comme quelqu'un qui est bizarre. Si c'est comme ça, ce monsieur, nous, on va se séparer de lui parce qu'il va nous gâter. Et même les gens ont dû dire à leurs enfants, n'écoutez plus ce monsieur parce qu'il dit des hérésies. On pensait qu'il venait de Dieu parce qu'il faisait des miracles, mais ce qui sort de sa bouche là, Dieu n'a jamais dit ça. Ça n'existe pas dans la Torah. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Donc c'est autre chose qu'il dit. Donc les gens sont partis et puis ils demandent aux 12, mais vous ne voulez pas vous en aller? Les disciples étaient aussi choqués. Mais il y a quelque chose de plus fort que je qui a dit, mais Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie. Tu as les paroles de la vie. On ne peut pas, du genre, même si on veut aller, où est-ce qu'on va aller? Même si on décide de te quitter, on va aller où? Donc ils reconnaissent que c'est lui les définit. Et l'autre exemple que je vais prendre, on aurait pu prendre aussi l'exemple d'Abraham, hein, à qui Dieu dit, lève-toi, quitte ton père et ta mère, et puis pars, pars. Non, quand même, fais pas les choses comme ça. Faut réfléchir un peu. Faut réfléchir un peu quand tu donnes les ordres. Lève-toi, quitte ton père, ta patrie, et puis pars. Où? Pars seulement. Quand même, quand même. L'autre, c'est Ruth, que j'ai voulu prendre. L'histoire de Ruth, vous la verrez, c'est Elkana qui est parti dans le pays de Moab avec sa femme, Naomi et ses deux enfants, ok? Ces deux enfants là-bas dans le pays de Moab, ils ont épousé deux femmes, Ruth et puis Orpa. Ils ont fait 10 ans Ils n'ont pas eu d'enfant. Le père est mort, les deux fils aussi sont morts. Et la femme, Naomi, n'avait plus d'enfant. Elle était avancée en âge. Donc elle appelle ses deux belles-filles et puis elle leur dit, mes filles, vous voyez la situation, vous avez épousé mes fils, c'est vrai, vous n'avez pas pu avoir d'enfant. Donc vous êtes libres, vous pouvez véritablement aller vous remarier et que moi, je ne peux plus avoir d'enfant vu mon âge. Mais même si le Seigneur me faisait un miracle et qu'il m'accordait des enfants, je ne suis pas sûr que vous puissiez les attendre jusqu'à ce que vous soyez en âge de vous marier. Donc, je vous conseille de partir. Allez-y, vous remariez, allez-y. Et elles étaient deux, Orpa et Ruth. Orpa a compris ce que la belle-mère a dit. C'était sensé. C'est plein de sens. C'est normal. Elle a dit, belle-mère, merci du conseil. Dieu vous bénisse. Je m'en vais. Elle est partie. L'autre, Ruth, elle dit non. Et quand Orpa est parti, Ruth a dit, comme Jésus a dit à ses disciples, mais toi, c'est comment tu fais? Tu veux pas partir aussi? Tu vas rester? Tu vas pas? Tu ne les suis pas? Ruth dit non, qu'elle ne peut pas. Elle ne va pas. On va lire ça, juge Ruth. On va lire ça dans Ruth 1, c'est le premier verset là. Dans Ruth 1, 16 à 18. Elle dit, OK, Naomi dit à Ruth, voici ta belle-sœur est retournée vers son peuple, vers ses dieux. Retourne comme ta belle-sœur. Ouais, retourne toi aussi. C'est le conseil que je te donne. Ruth répondit, ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple. Ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai. Et j'y serai enterré. Que l'Éternel, ah, là même, je ne sais pas quelle révélation, là, que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur. Si autre chose que la mort vient à me séparer de toi. On pense que ce n'est rien. Ruth s'est mariée. Elle n'a pas eu d'enfant. On connaît à cette époque ce que se marier et puis ne pas avoir d'enfant veut dire. C'est une honte. Donc la belle-mère lui dit, va dans ton pays parce que moi, je vais retourner chez moi. Donc, va chez toi te remarier. Elle dit, non, ne me presse pas de retourner. Où tu iras, j'irai. Ton peuple sera mon peuple, ton Dieu sera mon Dieu. Et elle dit même que Dieu me traite dans toute sa rigueur si une autre chose que la mort arrive à me séparer de toi. C'est le mariage. Parce que c'est vrai que le mariage qui nous lie à la mort, hein, est-ce que c'est le mariage? Non, c'est pas le mariage. Mais pourquoi elle dit ça? Qu'est-ce qui fait qu'elle dit ça? Elle a vu quelque chose que Orpa n'a pas vu. Ouais, à chaque fois, il y a des gens différents. Jésus et ses disciples, Orpa et Ruth, il y a ça. Le jeune riche et le marchand de perles, il y a ça. Et chacun prend une décision. Chacun prend une décision. Condition pour renoncer à la foi. Sorry, pour renoncer à soi-même. On va passer le temps et en train d'avancer. La chose la plus chère à l'homme, c'est lui-même. C'est-à-dire que l'homme s'aime lui-même. On aime dire chez nous, on a un adage qui dit, je vous aime, mais je me préfère. Donc, c'est une façon de parler chez nous. Je vous aime, mais je me préfère. Dis que c'est moi le plus important, c'est pas toi. Je t'aime, c'est bien, mais je m'aime plus que toi, donc je me préfère. Et donc, pour que quelqu'un laisse tomber sa personne, non, c'est un processus, c'est quelque chose qui vient vraiment de l'intérieur. J'aime l'expression du Canada, on dit, ça vient te chercher dedans. Ça doit venir te chercher dedans pour que tu puisses renoncer. Sinon, tu ne peux pas. Parce que si tu renonces, c'est comme si tu n'as plus de vie. C'est comme si tu n'as rien qui te caractérise. Tu as perdu ta personnalité. Et donc, pour que quelqu'un le fasse, il faut vraiment que ça vienne le chercher dedans. Et c'est un processus. C'est plusieurs points. Il faut entendre la voix de Dieu. Il faut entendre la voix de Dieu. Mais ça, c'est simple. Parce que tout le monde a des oreilles. Donc, ce n'est pas compliqué. Vous entendez la voix de Dieu aujourd'hui. Donc, ça là, c'est le plus simple. Donc, c'est comme si on dit pour réussir, il faut aller à l'école, il faut t'inscrire. Ça, c'est simple. Donc, t'inscris, on paye, puis on te met sur les bancs de l'école et puis tu t'en vas. C'est pas ça qui est compliqué. Sinon, tout le monde aurait réussi. Mais deuxième, c'est qu'il faut avoir la révélation de Christ. Il faut avoir cette révélation. Et si vous voyez dans les exemples, dans les quatre exemples, le marchand de perles a vu la perle. Il dit, mince, cette perle, je ne peux pas la laisser. Je ne peux pas. Je vais faire tout ce qu'il faut. Je vais laisser. Ça mérite même que j'abandonne tout. Que si je dois n'avoir que cette seule perle devant moi, ça me suffit. C'est pour cela qu'il a eu le courage d'aller tout vendre et de revenir. Donc, il faut avoir cette révélation de Christ. Si tu ne l'as pas, tu vas avoir l'intelligence de Christ, tu vas vouloir ajouter ce que Jésus demande de faire à toi, mais tu ne pourras pas le suivre. Parce qu'il va voir que tu n'as pas laissé tomber toi-même. Tu comprends? Tu ne pourras pas le suivre. Il faut comprendre que tu n'as aucune valeur sans Christ. Quand le marchand de perles a vu, il a regardé ses perles, et puis il a vu l'autre perle. Je me dis peut-être qu'il aurait pu aller demander un prêt pour acheter l'autre perle, pour avoir cette perle et garder les perles qu'il avait aussi. Parce que s'il a accumulé ses perles jusque-là, quand même, un marchand de perles, ça suppose que les perles ont une certaine valeur. Ce n'est pas un ignorant dans le domaine des perles. Mais il s'est débarrassé de tout. C'est une image, comme Jésus veut nous montrer. Il n'y a pas de juxtaposition possible. On ne peut pas prendre Jésus. Non, on ne peut pas prendre nous-mêmes avec notre nature adamique, avec tout ce qu'on a, et puis vouloir ajouter, mettre dessus. Non, ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher. Et il faut accepter et croire que Christ a infiniment plus de valeur que tout. Et quand je dis que tout, c'est tout ce que tu connais, que tout ce que tu as, que tout ce que tu vois, que tout ce, que tout. Et dernier point, il faut avoir confiance en Dieu pour toute provision concernant ta vie. C'est ça qui fait que Ruth peut dire, ton Dieu sera mon Dieu, ton peuple sera mon peuple. C'est-à-dire qu'elle regarde sa condition de femme, pardon, qui n'a pas encore eu d'enfant, elle veut un enfant, elle n'a pas renoncé à ça, mais elle regarde comme si Paul, j'aime bien l'expression de Paul, toutes ces choses qui étaient pour moi des gains, je les regarde comme de la boue à cause de l'excellence de Christ. Vous voyez, c'est avoir un enfant, c'était un gain, non pas c'était, c'est un gain pour elle, c'est important pour elle. Mais quand elle voit l'autre chose, la première devient comme de la boue à cause de l'excellence de la deuxième. Et quand on fait tout ça, c'est pour ça qu'on peut s'abandonner au Seigneur. Si tu n'as pas eu la révélation de Christ, tu ne pourras pas t'abandonner au Seigneur. Tu vas toi-même venir voir Jésus comme le jeune homme riche. Maître, que faut-il faire? Il va te dire, voici ce qu'il faut faire. Mais tu ne pourras pas le faire parce que tu vas estimer que te départir de toi-même, c'est pas possible. C'est pas possible. Tu vas estimer que ça ne te... Que non, on peut faire autre chose. Non. Il y a une alternative. Il doit avoir sûrement un autre moyen. Il n'a pas donné la vraie. Il doit avoir un autre moyen. Mais il n'y a pas d'autre moyen. Si quelqu'un veut venir après moi, qui renonce à lui-même, qui se charge chaque jour de sa croix et qui me suive. Donc, le dernier point par là où on termine, je termine ça par la signification profonde du renoncement à soi, ou bien le fruit du renoncement à soi, ou bien qu'est-ce que le renoncer à soi crée. Si on a réellement renoncé à nous-mêmes, cela veut dire que on n'a plus d'existence. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Bon. Là, on va faire un raisonnement mathématique. Si on a renoncé, si j'ai renoncé à moi, véritablement, pas au sens des hommes, mais au sens que Dieu dit, ça veut dire que je n'ai plus d'existence. Ça veut dire que si tu me vois, si j'ai renoncé à moi hier nuit, samedi, ok? Ça veut dire que quand tu me vois aujourd'hui, dimanche matin, tu me vois parfait. Comme je dis, c'est le corps qui ne vaut rien, mais ce n'est plus le même parfait. Vrai ou faux? Et si tu me vois et que ce n'est plus le même parfait, ou bien que ce n'est plus le même Herman, la même Jeanne, la même Mariam, le même ange Ariel, le même papa Antoine, le même Mario, ça veut dire qu'il y a quelqu'un d'autre qui a pris la place, n'est-ce pas? Et ce nouveau toi-là, donc ça devient en fait Jésus, que tu as accepté de troquer avec l'ancien toi. Est-ce qu'on ne peut pas dire que les choses anciennes sont passées et que voici toutes choses sont devenues nouvelles? Est-ce qu'on ne peut pas dire ça? Mais si on peut dire ça, est-ce qu'on ne peut pas dire que tu es né de nouveau? Parce que la Bible dit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Est-ce qu'on ne peut pas dire ça? Donc, en fait, c'est une autre façon que le Seigneur a mis à mon cœur pour parler de j'allais dire comme la nouvelle naissance. On pouvait faire autrement, mais ça nous montre que le point sur lequel le Seigneur veut insister, c'est qu'on ne peut pas faire d'ajout sur notre personne. Ça, il faut le tenir. On ne peut pas ajouter. Il n'est pas possible d'ajouter. C'est un ou c'est l'autre. Parce que si tu ajoutes, tu ne pourras pas suivre. Puisque à un moment donné, tu auras les deux. Donc, tu vas obéir à un certain jour et tu vas obéir à l'autre certain jour. D'autres jours, pardon. Et quand tu vas revenir à l'un, il va se fâcher parce qu'il va dire que tu as obéi à l'autre. Donc, lui n'est pas d'accord avec toi. Et quand tu vas vouloir aller chez l'autre, il ne sera pas d'accord avec toi non plus parce qu'il va dire que tu as obéi à son ennemi. Et tu es dans une situation et toi-même, ta vie n'est pas bien. Et toi-même, tu sens que ton cœur est malheureux. Tu sens que tu fais des efforts, mais que tu ne vas nulle part. Tu fais du surplace. Tu ne bouges pas. Tu fais un pas en avant, deux en arrière, un en avant, un. Tu ne bouges pas. Tu fais du surplace. Donc, il faut que nous renoncions à nous-mêmes si nous voulons être capables de suivre le Seigneur. Mais ce n'est pas tout, comme on l'a vu. Il va rester se charger de sa croix chaque jour et marcher effectivement à la suite de Jésus. Mais ce sera facile parce qu'il y a deux points qui seront très faciles. L'obéissance sera aisée puisque tu n'auras pas en toi de motif de résistance, de motif de résistance. L'obéissance sera aisée et la foi sera aisée parce que tu n'as plus d'existence, parce que tu as laissé tes croyances, tes peurs, tes craintes, tes ceci, tes cela, tu as laissé. Tu vas voir que la foi sera facile pour toi à avoir. On va s'arrêter là. Que le Seigneur nous donne véritablement de considérer ces paroles-là et de renoncer véritablement à nous-mêmes pour pouvoir lui faire pleine place dans notre vie. Au nom de Jésus. Amen.